bonjour, vous êtes toujours sur La Rage et il est très tôt ce matin et nous accueillons un invité, pas n'importe lequel, Philippe.
Bonjour.
Comment ça va Philippe ?
Très bien, très bien. Parce que 7h, c'est une heure, pour moi, c'est une heure raisonnable, donc il n'y a pas de souci.
Ah, on voit que Philippe, il n'est pas animateur, hein. Il a une meilleure mine que nous. Hein.
Ouais, il a...
Si, si, en fait, je suis animateur, mais pas avec la même public.
Jeunesse, pardon, c'est vrai. Ça va Philippe ?
Très bien ce matin.
Impeccable ?
Ouais.
Il fait pas trop froid dans l'accueil ?
Il faisait plus froid dehors.
Philippe est passé hier soir, il avait peur qu'il fasse froid.
C'est vrai ?
Il est passé hier soir pour faire un petit tour, faire un petit coucou.
Pour voir préparer du feu s'il en avait besoin.
C'est ça.
Pour sortir Mylène Polaire issue du plastique recyclé.
Et ça, je savais pas, moi, du coup. Peut-être que tu vas être amené à en parler. Moi, je savais pas qu'on faisait des pulls polaires avec des bouteilles en plastique.
Oui.
On parlera beaucoup de choses ce matin. J'espère qu'en une heure, on aura le temps de voir tous les sujets. Mais bon, on va en voir beaucoup.
J'espère. Je pense qu'on aura le temps de tout faire.
Oui, c'est sûr. Alors, du coup, on pourrait déjà commencer par te présenter, du coup, Philippe, ce que tu fais.
Alors, je suis animateur. Au service environnement de Touraine-Vallée de l'Indre. Et ma mission, c'est d'accompagner les nouveaux arrivants sur le territoire et leur expliquer comment on gère les déchets. Donc la gestion des déchets, elle a un peu évolué. Il y avait une période où, en fait, mes collègues ramassaient les poubelles. Et après, il y a eu la période où on a mis en place le tri. Donc on demandait à l'usager de trier les différents déchets. Et c'est pour ça que mon rôle était important pour l'expliquer ce qu'étaient les déchets et puis leur devenir. Et maintenant, on a passé sur une troisième étape qui est la prévention. C'est-à-dire maintenant réduire dans chacune des familles les déchets parce qu'on verra ce matin que les déchets ont un impact sur l'environnement. Donc pour cela, on assure une permanence toutes les semaines pour les nouveaux arrivants. Et en plus, j'ai un travail de... auprès des écoles et j'interviens dans les classes quand les instituts me demandent. On parle déchets avec les CP, avec les CE1, jusqu'avec les CM2. Et là, tout récemment, je suis intervenu au niveau du collège d'Èvre et on a parlé déchets. On propose de faire un projet ambitieux pour l'année prochaine. Donc là, pour l'instant, c'est encore dans les tuyaux. Donc je parlais plutôt de ce qu'est l'actualité. Donc c'est les écoles du territoire.
D'accord. Et je suis un peu curieuse, mais qu'est-ce que c'est que ce fameux gros projet que vous allez mettre en place ?
Le collège a l'ambition, et surtout dans ses programmes, de faire du développement durable. Donc, développement durable, c'est un grand terme dans lequel on met beaucoup de choses. Mmh. Et donc, ils sont axés sur la réduction de leurs déchets, notamment ceux produits par la cantine. Mmh. Donc, il faut qu'on regarde ensemble ce qu'on peut faire et surtout comment porter le message. Parce que monter un projet tout seul, ça n'a pas de sens.
C'est sûr.
C'est un travail d'équipe. Le collège, les enseignants, les parents, le service déchets et aussi les animateurs du pôle jeunesse peuvent aussi être un partenaire du projet. Donc pour l'instant, c'est encore dans les tuyaux, mais c'est un bon projet qui motive l'ensemble de l'équipe du service déchets.
Alors ça... C'est quelque chose quand même. Donc ça, c'est un beau projet, c'est vrai. Donc comment est-ce que... comment vous parlez de, justement, gérer un petit peu, réduire les déchets. Mais pourquoi, en fait, il faudrait les réduire ?
Ah, c'est la grande question. Les gens me demandent pourquoi est-ce qu'il faut trier le jaune du sac noir ?
Parce que c'est un peu embêtant de savoir trier, etc. On ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il faut mettre dans les sacs.
C'est comme les mathématiques, c'est pour faire travailler le cerveau.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Alors, je sais gérer les déchets, mais je ne sais pas tout faire. Parce que les déchets sont compliqués, les déchets sont pluriels. On a des déchets simples, on a des biodéchets, on a des plastiques, des déchets dangereux. Et je sais donner une sortie, un exutoire à chacun, si au niveau de la maison, chacun a fait un effort. Vous avez un extincteur, vous avez des produits chimiques. Ils vont être plus compliqués à gérer qu'un emballage plastique. Mmh. Et donc, le tri, c'est ça. C'est à la maison, avant de les mettre à la collecte, d'avoir fait, vous, un premier travail entre ce qui est simple, comme un emballage plastique ou un emballage carton que je saurais, à qui je saurais donner une seconde vie, Et puis, éventuellement, un biodéchet, un bout de pelouse ou des feuilles mortes que vous pouvez, vous, à la maison, gérer en faisant du compost. Donc, l'accompagnement, la gestion des déchets, c'est expliquer aux gens que pour que moi, je puisse faire le travail, vous êtes partenaire, vous êtes acteur.
D'accord, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre, justement, dans nos petits sacs noirs ? Donc, un bout de pelouse, des choses comme ça, et dans les sacs jaunes, que tout ce qui est au niveau plastique et cartonné,
voilà.
C'est ça ?
En fait, dans le sac jaune, ou bac jaune, ça dépend des communes, on va y mettre les classiques bouteilles en plastique, celles qui ont un bouchon. Mais tous les plastiques n'y vont pas. Donc finalement, je vais vous dire, c'est super simple. Et finalement, c'est pas simple que ça, parce que vous avez un gobelet, vous avez pris un café, il est en plastique, sauf qu'il ne va pas être recyclable.
D'accord.
À terme, on pourrait tout recycler, mais on va devoir intégrer une notion qui est compliquée, la notion de coût. C'est-à-dire que si ça coûte trop cher, et si c'est trop compliqué, finalement, on l'abandonnera. Et on considérera que ce déchet, il ne va pas être valorisable. Et donc, il est à mettre dans la poubelle noire. Donc, les simples, ce sont les bouteilles et flaconnages. Vous avez une bouteille d'eau, une bouteille de coca. Vous avez une bouteille de produits pour laver les mains. Ça, c'est des grandes familles simples. Donc, ça, dans le sac jaune. Vous avez un emballage de taboulé. C'est compliqué. Donc, ça va dans le bac noir. Donc, je venais là pour expliquer des choses simples et finalement, ça devient compliqué.
Moi, j'ai une petite question. Si c'est pour me donner bonne conscience, hein, parce que j'imagine que je me plante moi régulièrement. Si jamais on met un gobelet en plastique qui a servi à boire un café dans le sac jaune par inadvertance, c'est pas pour autant que tout le sac jaune va être foulé.
Alors, les sacs jaunes sont transparents. Donc, à la collecte, mes collègues ont un premier travail qui va être de regarder si l'usager, c'est pas fait bien, c'est fait pas trop d'erreurs. Et s'il y a quelques erreurs, on considère que c'est le droit à l'erreur, parce que de toute façon, le sac va être retrié. Donc, si on est sur. On n'a pas encore mis de seuil d'erreur, mais si manifestement c'est un ou deux objets, le sac est pris. Si manifestement le sac contient trop d'objets qui sont. Ce qu'on appelle nous indésirables, ils sont laissés sur le trottoir. Et ça signifie à l'usager, ben voilà, regardez à nouveau les consignes, parce que ce que vous avez fait ne correspond pas aux consignes qui nous permettent à nous raisonnablement de le faire. Et quand on parle de raisonnable, c'est en termes de coût. On pourrait toujours prendre votre sac et le retrier, et ça augurerait un surcoût qui ferait que ben, directement vous seriez impacté. Donc c'est faisable. Mais pas à n'importe quel coût. Et c'est pour ça que vous êtes, vous, usagers, impliqués dans la gestion des déchets.
Alors justement, le coût, c'était une autre question que je voulais te poser. J'imagine que ces produits, quand ils sont recyclés, ils sont revendus. Quand on achète une matière première, elle est vendue. Est-ce que c'est un plan économique qui est viable, le tri sélectif ? Est-ce que ça rapporte de l'argent aujourd'hui ?
Alors, l'idée qu'on entend souvent, c'est qu'il y a de l'or dans nos déchets. On a l'impression que des déchets, on va en faire un monceau et qu'on va gagner plein d'argent. Les déchets coûtent plutôt. En fait, on arrive en récupérant de l'argent avec ce qui est recyclable à limiter la hausse du coût des déchets. Parce que certains vont rapporter, mais d'autres vont coûter.
C'est pour ça que les pulls polaires ne coûtent pas très cher.
Une polaire coûte. Parce que finalement, la polaire, c'est la fin d'une vie d'un déchet. Mais avant d'arriver à la polaire, il aura fallu chez vous collecter le plastique et le transformer. Et puis après, le revendre à une entreprise de filature qui va filer cette matière plastique et qui, avec, va faire une polaire. Donc la polaire, elle coûte moins cher que de la laine, mais c'est quand même un coût. Sinon, ce serait donné. Donc ouais. On est sur une seconde vie d'un déchet, mais ce n'est pas encore un déchet qui va coûter zéro. Il a un coût. Heureusement qu'il a un coût.
Heureusement
qu'il a un coût parce que c'est une industrie et ça fait vivre du monde.
Et dans tous les cas, de toute façon, le coût écologique sera plus important que le coût économique.
Alors ça c'est un coût induit, on ne s'en rend pas compte. Mais le fait de demander de faire attention, ça impacte directement notre porte-monnaie. On se rend compte que si on trie le sac dans le sac jaune, c'est-à-dire qu'on met moins dans le sac noir qui lui coûte, et surtout, ça a un intérêt pour l'environnement. Mais ça, on ne le voit pas. Mais il faut l'avoir sous-jacent à l'esprit, c'est que on est là dans une démarche positive. Alors, positive, bon. Est-ce que tout le monde va entendre le terme positif pour l'environnement? Oui, je pense que oui.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est...
Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce qui n'est pas trié, donc les objets... les objets à qui on n'arrive pas à donner une seconde vie, on les appelle les déchets ultimes. Et les déchets ultimes, ce sont des déchets comme le gobelet dont je parlais tout à l'heure, à qui je ne peux pas, de manière raisonnable en termes de coût, donner une seconde vie. Et ceux-là, ils vont être enfouis. Et l'enfouissement, c'est-à-dire qu'on va faire un grand trou, et ces déchets-là, ils vont être dans ce grand trou, et quand le grand trou va être rempli, il va devenir une montagne, et puis cette montagne, elle va rester. Et donc, ces déchets qu'on a mis dans le grand trou, ils sont encore à nous. Donc, on doit encore une surveillance pendant 10 ans. Donc, le coût, il est que le déchet n'a pas disparu et il faut encore le surveiller.
Mais du coup, il reste, entre guillemets, intact. Ça veut dire qu'on va avoir une montagne de déchets qu'on ne peut rien y faire. C'est ça?
Ah, c'est ça. En fait, on est sur des monceaux de déchets. Qui auront un peu évolué parce qu'on les aura écrasés et parce qu'ils seront mélangés avec d'autres déchets. Mais si demain, on veut faire un peu de curiosité et qu'on ouvre ce grand trou, les déchets seront encore là. Certains seront un peu dégradés. Tous les déchets organiques se seront dégradés. Mais le gobelet plastique, on est sur du pétrole, il restera gobelet plastique, il sera encore là.
D'accord.
Donc, quand on parle d'impact pour l'environnement et pour les générations futures, voilà ce qu'on leur laisse.
Ne prenez plus des gobelets en plastique. Et là, du coup, je culpabilise parce qu'on en a en fait sur la table.
Ouais, mais on va faire une petite pause. Hein. Je pense qu'il est temps. Mais après, moi, je te questionnerai parce que c'est trop facile de. Pour moi, en tout cas, ça va être l'ouverture hein, avant la petite pause. C'est trop facile qu'on se remette nous tout le temps en question. Comment ça se fait? En effet, il faudrait plus qu'on achète de gobelets en plastique, mais comment ça se fait qu'on en vende encore?
C'est ça.
Enfin, si vraiment, il faudrait plus qu'on en achète. Moi, je pense que la solution, c'est que les gens arrêtent de nous en vendre. Est-ce que ça, c'est pas une solution aussi pour le tri, pour l'écologie? Hein, donné que aussi les entreprises peut-être arrêtent de nous vendre des saloperies qui mettent des millions d'années à se désagréger.
Question en suspens. Philippe va nous répondre tout à l'heure. Tout de suite une courte pause musicale avec Nat King Cole, Unforgettable. À tout de suite. Where am I going to park? Oh, but here tonight. Though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never unforgettable. Merci beaucoup, Nat King. Donc, c'était Nat King Cole, Unforgettable. On reprend directement sur la question des déchets avec Vincent qui était un peu vénère en mode. Non, mais attendez, avant de nous engueuler sur le fait de consommer ou non des verres en plastique, eh bien, est-ce que tout simplement on ne peut pas demander aux entreprises d'arrêter de nous les vendre avant de nous culpabiliser? Et c'était Philippe qui allait formuler sa réponse.
Alors, au départ, j'ai dit que j'étais animateur et que mon travail, c'était de parler de la gestion des déchets. Eh ben, la gestion, c'est comment, en tant que consommateur, on consomme. Même si sur le marché, on a plein de choses, hein, des choses qui sont respectueuses de l'environnement et d'autres qui le sont moins, on entend, on sait. Donc, on ne peut pas se dire « je ne savais pas ». Il y a des gobelets qui ne sont pas recyclables. Là, pour prendre mon thé, j'ai pris un Mazagran. Mais une fois que mon thé va être terminé, je lave. Donc, je consomme de l'eau, mais je ne génère pas de déchets. Donc, ça veut dire que chacun... À son niveau, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, chacun met le seuil où il veut en termes d'action responsable. Il n'y a pas que le coût qui est important, il y a comment je me sens citoyen dans la société.
Et qu'est-ce que j'ai envie de, comme avenir, quoi.
Voilà. C'est ça. Parce que justement, comme on parlait de se remettre en question, etc., et de la place du citoyen, c'est vraiment l'objectif. Ce n'est pas non plus qu'on devienne trop... Comment dire ? Qu'on y pense tout le temps, mais que ça devienne petit à petit un petit réflexe, des naturel. Petits gestes au quotidien.
Bah, naturel, c'est-à-dire que mon travail, c'est d'apporter un éclairage et dire voilà ce que je sais faire et voilà en quoi ça vous implique. Et après, chacun va prendre l'implication à son niveau. Les solutions sur le territoire pour réduire, elles sont multiples. On verra tout à l'heure que, par exemple, le compostage, c'est une solution pour réduire les déchets. Mais je ne peux pas demander, et on ne peut pas demander à chacun de faire du compostage. Parce que le compostage, ce n'est pas si naturel que ça. Dans le sens naturel, si, c'est un phénomène naturel. Mais le faire, ce n'est pas si naturel que ça. On ne peut pas demander aux gens de le faire. Là, il n'y a pas très longtemps, il y a la ville de Paris qui a mis à disposition, pour des habitants, 500 lombricomposteurs. Alors, c'est quoi un lombricomposteur ? C'est un composteur qui se met dans la cuisine. Donc en fait, on n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas les vers de terre du sol qui viennent, c'est des vers qui vont dans la cuisine dégrader vos déchets. Donc, demander à l'habitant parisien d'avoir dans sa cuisine des locataires qui sont les vers de terre et qui réduisent les déchets, ça veut dire que là, on demande à l'usager de s'investir. Et on peut forcer personne à le faire parce que c'est une contrainte. Donc chacun va mettre son seuil là où il le veut. Il a compris qu'il fallait réduire, qu'il y avait différents biais. Il y a l'achat responsable, il y aura l'achat local et saisonnier, il y aura le tri, il y aura le compostage qui tendra peut-être vers jusqu'à un zéro déchet, mais je ne peux pas demander à l'habitant de le faire. Moi, je m'adresse à une population, on est sur à peu près 30 000 habitants. Donc 30 000 habitants, c'est 30 000 situations différentes. Donc moi, j'apporte les éléments qui peuvent répondre à beaucoup de réponses, mais chacun va prendre dans ce que je lui apporte ce qu'il veut.
Donc justement, tu disais que donc tu travaillais avec autant de personnes et d'habitants, mais comment tu fais pour justement parler de prévention, si je peux dire ça, avec eux?
Ah, alors ça, c'est une stratégie. En fait,
la stratégie, Philippe.
C'est ça. La stratégie, c'est-à-dire que les habitants qui nous contactent le font soit par téléphone parce qu'ils ont des questions, soit ils viennent sur. On a sur une permanence à la Grange Barbier parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'un bac plus grand ou bien d'un bac plus petit ou d'éléments qui leur permettent de gérer leurs déchets. Et la stratégie, c'est de voir, de percevoir dans la demande de l'habitant si ce n'est qu'une demande technique ou si c'est une demande d'accompagnement. Et donc, en fonction des réponses que les gens nous apportent, bah, je vois s'il y a la possibilité de parler de compostage ou de réduction de déchets ou d'achat responsable. Donc, c'est la finesse de la relation humaine. Si en face de moi j'ai un usager retors, eh ben, j'apporterai la réponse qu'il aura voulu, pas plus. Mm-hmm. Et si je sens que l'usager Les meilleurs usagers actuellement, ce sont ceux qui viennent sur le territoire et qui étaient sur l'agglo et qui habitaient en appartement et qui ils ont entendu parler du territoire avec tous ces atouts et donc ils ont acheté une maison. Et pour eux, c'est un rêve. Ils ont été longtemps en appartement et la maison arrive à un aboutissement. Et dans cet aboutissement, le compostage est induit. Et donc là, c'est du pain béni. C'est-à-dire que l'usager vient avec pour sa poubelle. Donc jusqu'à présent, il était en immeuble. Il ne gérait pas ses déchets parce qu'il avait un gardien ou il avait un bac collectif. Et là, il devient acteur de son déchet. Et donc, ce que je leur dis, c'est bon, écoutez, installez-vous. Prenez la mesure de ce qu'est votre bac noir et le sac jaune avec déchets ultimes et déchets recyclables. Et sachez qu'on a des composteurs. On les vend 10 euros. 10 euros, ce n'est pas le prix du composteur. C'est-à-dire que la collectivité s'engage et en paye les trois quarts. Et quand vous serez installé, revenez me voir et on parlera compostage. Donc je plante ma graine, les gens s'installent, et puis finalement, ah tiens, monsieur Pierrot, l'animateur, il m'a parlé de ça, et si on essayait ? Et en fait, la stratégie, c'est de ne jamais agresser les gens, parce que finalement, je vais prendre la mesure du seuil d'investissement de chacun. Mmh. Mais comme vous, au niveau animateur, vous percevez l'investissement de chaque jeune. Certains vont venir là en tant que consommateurs pour un baby-foot et d'autres vont vouloir organiser des concerts. On est animateur. Donc on sait à quel public on a affaire. Donc c'est pas la manipulation, c'est juste la stratégie.
Et alors justement, la stratégie, est-ce qu'elle est payante ? Est-ce qu'aujourd'hui, le tri, tu penses que c'est rentré dans les... dans les mœurs et dans les manières de fonctionner des familles ?
Il y a différentes façons d'aborder la réponse. Quand on voit le nombre de sacs jaunes présentés à chaque semaine, on se dit oui. On se dit oui que ça marche. Après, quand on va sur le centre de tri, où on analyse avec plus de finesse ce que sont les déchets, on se dit que tout le monde n'a pas compris ou tout le monde n'a pas fait l'effort. Alors après, ce qu'on pourrait analyser, c'est que la démarche et le tri et puis l'investissement va être un peu cyclique en fonction des âges et en fonction du moment de l'année. Quand c'est les fêtes, bon, allez, on pense à la teuf et puis la bouteille plastique, on la met à la poubelle. Et puis quand on a plus de temps, quand on revient à des valeurs ou quand on a vu un reportage qui nous montre que le territoire, le nôtre, ou bien l'environnement global est dégradé, on se dit, qu'est-ce que je peux faire ? Donc ça veut dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais j'y crois, donc finalement, ça marche.
Et justement, toi qui es animateur tri, t'interviens pas mal dans les écoles, est-ce que tu es confiant pour l'avenir ? Est-ce que tu penses que les enfants, les ados, ils seront meilleurs que nous ?
Alors, il y avait un temps, on nous appelait les ambassadeurs. L'ambassadeur, sa mission, c'était d'expliquer le tri. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Et donc, à cette époque-là, l'ambassadeur, dans les écoles, pour leur expliquer et pour dire qu'on parlait à un public qui, demain, serait acteur. Aujourd'hui, on n'est plus sur cette dimension-là. Parce que finalement, il est urgent d'agir. Donc, quand on est dans les écoles, on leur dit pas, on n'est pas là en disant... L'enfant de CP sera consommateur demain. Il est consommateur. Il est, en fait, il influe sur l'achat de ses parents. Parce que dès qu'on est petit, on va demander une bouteille de plastique ou bien une bouteille en verre. Donc on est capable de faire ça. Donc finalement, on n'est plus dans cette dynamique de se projeter, on est dans le réel. Parce que c'est comme pour le pétrole. On sait que le pétrole, il n'y en aura plus. Donc, il faut commencer déjà aujourd'hui à dire comment sera la vie quand il n'y aura plus de pétrole. Là, aujourd'hui, on sait qu'on a dégradé. Il est question de ne plus dégrader plus que ce qu'il y a actuellement.
C'est vrai. Parce qu'en plus, tu m'avais raconté des choses qu'on ne sait pas. C'est que justement, pour cause de nos consommations et le fait qu'on dégrade, tu m'avais parlé d'un... 7e continent, un truc comme ça.
Ça serait un truc de malade.
Il y a Anthony qui fait des gros yeux, genre.
Quoi ?
Alors, on l'appelle le 7e continent, ou bien il y a d'autres termes, c'est les GIR. En fait, si vous avez un déchet plastique, une bouteille, que vous jetez dans la nature, de manière naturelle, il va arriver dans un ruisseau. Et du ruisseau, il va arriver dans un fleuve. Et du fleuve, il va arriver à la mer. Et le plastique a cette propriété qu'il est, il est très bien par rapport à la conservation des produits, sauf qu'il se dégrade très, 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 très lentement. Un papier va se déliter, alors qu'un plastique, lui, va le faire. Et donc, cette bouteille plastique, elle va, avec les éléments naturels, elle va se dégrader en petites parcelles de plastique qui vont toujours être plastiques. Et donc, ces plastiques-là arrivent à la mer. Et dans la mer, elles ne se dégradent pas. Et avec le phénomène des courants, en fait, on a dans l'Atlantique et dans le Pacifique une accumulation de ces petits plastiques et qui forment ce qu'on appelle un septième continent. Donc les plastiques sont entre deux eaux et ils ont la surface d'un continent et on sait qu'ils sont la dégradation de ce que nous, on a produit il y a 20 ou 30 ans quand on a découvert le plastique. On disait, le plastique, c'est fantastique. Ben voilà, voilà ce qu'on
et
a fait.
Et le merfoot beat, tu nous entends.
Le caoutchouc super doux.
Et donc ce plastique super dégradé, et donc ce plastique qui est septième continent, les parcelles sont tellement petites qu'on ne sait pas comment les récupérer. Alors il y a eu un Hollandais, il n'y a pas très longtemps, en fait il a été ingénieux, il s'est dit tiens, on va prendre un grand filet de pêche avec des mailles très petites et ces mailles très petites vont être capables de capter le plastique, sauf qu'elles sont tellement petites qu'elles prennent tout.
Les poissons, donc elles prennent aussi
le zooplancton,
elles prennent tout, elles prennent tout. Donc c'est à dire que de l'idée de faire du propre, ouais, on va avoir un impact qui va être négatif. On va pêcher tous les poissons matures, tous les juvéniles et le plancton. Donc finalement on va réussir à récupérer du plastique et tellement de choses qu'on va tuer l'océan. Donc, est-ce qu'il vaut mieux laisser ce continent de déchets comme ça et espérer que la planète soit capable de le dégrader, ou est-ce qu'il faut en tout cas ce qu'il faut
peut-être
faire,
que c'était un premier pas, peut-être que c'était une bonne idée, mais là il va falloir retravailler entre guillemets la méthodologie. Mais
ce qu'il faut surtout faire, c'est aujourd'hui en eau pratique, ne pas réalimenter ce septième continent,
oui,
et surtout avoir des pratiques. On sait aujourd'hui que la bouteille plastique, elle va arriver à la mer si on la met pas dans un sac poubelle. Donc trouver le bon sac, le mieux étant le sac jaune qui permet de donner une seconde vie.
On peut avoir le raisonnement inverse aussi. On peut se dire qu'on continue de développer ce super continent pour que ça soit de plus en plus épais et qu'un jour on puisse construire dessus.
Ah bah carrément.
Alors, moi je suis d'accord. Non, mais quand même, ça a plus de gueule parce que là-bas on paye pas d'impôts locaux pour l'instant. On peut y mettre son drapeau. On peut. N'est-ce pas une perspective humaine?
Alors, il y a
un Philippe. Alors,
pour limiter la surpopulation un peu.
Exactement.
J'avais terminé la première partie en t'attaquant un petit peu. Bah, la deuxième partie, elle se conclura de la même manière.
Un peu d'humour. Un peu d'humour.
Non, mais en tout cas, je reviens sur le tout début quand Anthony avait relancé quand je t'avais un petit peu attaqué à la fin de la première partie, justement par rapport au tri. Ta réponse, en fait, je pense qu'elle résume le tout. Ton exemple de quand t'es arrivé, on t'a proposé un thé dans un gobelet en plastique. Ben non, toi t'as fait le choix, voilà, de prendre un gobelet que tu vas laver après. En effet, c'est pour ça. Moi un acte aussi citoyen. Mmh. Et c'est ça aussi, s'engager à un moment donné. Il existe plein de trucs, on n'est pas obligé d'utiliser toutes les saloperies qu'on peut trouver autour de nous, et c'est à chacun de faire un minimum gaffe, quoi.
Alors l'engagement, quand on parle, le terme est fort, engagement. L'engagement, on a l'impression que ça nous coûte, alors que là, ça coûte pas grand chose. C'est juste réfléchir un petit peu, qu'est-ce que j'en ai besoin. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à une conférence et le conférencier parlait d'un déchet qui était pour nous utile. Par exemple, un sac plastique qui va nous servir à amener des viennoiseries. Mais cet emballage va être utile pour nous. Par contre, est-ce qu'il va être confortable pour la planète? Et c'est à chaque fois se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce qu'il n'y a pas une solution meilleur pour l'environnement qui me coûte à rien du tout.
Bah oui. Non, mais puis pour de vrai, on est toujours critique. Moi, je me rappelle quand au supermarché, ils avaient, il y a quelques années, il y a longtemps déjà, qui disaient qu'ils allaient plus donner de sacs plastiques, que tout le monde, enfin moi le premier, je disais oh, fais chier, va falloir qu'on pense à prendre notre cabas, ça va être galère et tout. Franchement, moi, ça me saoulait, j'y croyais pas du tout. Et puis au final, aujourd'hui, on n'y pense même plus que dans les supermarchés, on avait des sacs plastiques. Ouais. C'est rentré.
C'est ça. c'est ce que je disais en fait, c'est qu'au fur et à mesure, ça finit par être des réflexes.
Mais oui.
Donc du coup, c'est ce que tu appelles de la consommation responsable, durable, raisonnable. C'est d'abord de se dire qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, d'essayer de réduire au maximum des choses qui peuvent être néfastes pour la planète. Par exemple, bon, je suis coupable parce que du coup j'apportais les croissants et puis du coup il y avait un sac plastique, mais j'aurais très bien pu prendre un sac en papier ou un sac en tissu et puis le faire. Non, laissez tomber madame la boulangère, mettez les croissants là-dedans et réutiliser les choses et pouvoir les recycler, enfin se dire que ça peut être recyclé du coup.
Merci beaucoup, on va faire une petite pause.
De rien,
petite
beaucoup.
Pause musicale. Alors, j'osais à peine dire l'heure parce qu'on a un petit décalage. Mais en tout cas,
7h30.
On va dire qu'il est 7h30. Peut-être que pour vous, il sera 7h32, qu'importe. En tout cas, on est bel et bien en direct de l'accueil jeune de Vénier avec Philippe, Aurélie, Vincent et moi-même Anthony. On va se réveiller tranquillement avec un titre de Queen qui s'intitule Don't Stop Me Now.
Ah, génial, je l'écoute. Yeah.
Ça claque. Hein.
Et après, Philippe, ce sera à toi de choisir la musique.
D'accord.
C'est parti. Ça fait du bien. Écoutez, Queen, tout à l'heure, le titre sera Rolling Stones sur la suggestion de Philippe. On va poursuivre l'émission. Aurélie, je te donne la parole.
Super. Donc du coup, voilà, pour faire un petit fin mot, pour revenir à ce que nous avons dit, vraiment, pour avoir une consommation responsable, il faut se dire vraiment qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, d'avoir aussi à l'esprit de pouvoir réduire au maximum du coup nos consommations, nos déchets, etc., de les réutiliser et de se dire à l'esprit qu'il y a des choses qui se recyclent et qui ne se recyclent pas. Voilà, mais aussi, donc du coup, au niveau d'une autre prévention dans laquelle on pourrait parler, donc ce ne sera pas au niveau des déchets, mais ce sera, si j'ose parler, du gaspillage un peu alimentaire. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le gaspillage? Est-ce que c'est la même chose? Comment est-ce qu'on pourrait essayer de réduire ces choses-là?
Alors aujourd'hui, en France, on estime que chaque Français va jeter 20 kilos de produits alimentaires, 20 kilos de denrées alimentaires. Mmh. Et dans ces 20 kilos, 7 sont des emballages jamais ouverts. Alors c'est quoi un emballage pas ouvert? C'est-à-dire que j'ai fait mes courses, est-ce que j'ai fait une erreur ou est-ce que j'ai mal estimé? J'ai acheté un produit, mis dans le frigidaire, et puis je l'ai oublié. Et puis en l'oubliant, la date de péremption va être dépassée et ce produit va plus être consommable. Donc plus consommable, ça veut dire que je peux pas le manger et donc il devient un déchet. Est-ce que c'est évitable? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment j'ai eu envie d'un produit, je l'ai rangé et qu'est-ce qui a fait, quelles sont les étapes qui ont fait qu'il est devenu périmé? Alors périmé, ça a un sens différent en fonction des produits. J'ai un laitage, j'ai un yaourt, il y a une date de péremption qui est indiquée dessus. Est-ce que je peux consommer le produit après sa date de péremption? J'ai de la viande, la date elle est périmée. Est-ce que je peux consommer le produit après sa date de péremption? Et j'ai des pâtes qui sont elles aussi une date de péremption, que devient le produit une fois consommé, donc une fois périmé. Donc le gaspillage alimentaire va être induit par cette connaissance, quel est le sens de la date. Alors sachez que si vous avez un yaourt qui est périmé d'un jour, on peut le manger sans problème. Il est périmé de 5 jours, on peut le consommer sans problème.
Ah ouais ?
Il est dépassé d'un mois sans problème.
Non.
Alors, pourquoi ?
C'est pas possible.
C'est pas possible.
On nous aurait menti. Alors, sachez que par exemple, si je prends un grand nom de la distribution comme Danone, Danone va faire des yaourts. Il va faire des yaourts pour, par exemple, pour la métropole, et il va faire les mêmes yaourts pour l'outre-mer, pour aller de la France jusqu'à La Réunion, par un transport en bateau, il faut un mois. Et il faut encore que ce yaourt soit encore consommable, arrivé à la métropole, en La Réunion. Donc, le produit qui va partir pour La Réunion va être, au niveau de la date, il aura un mois de plus pour qu'il soit consommable. Ça veut dire qu'à la maison, un produit qui est dépassé d'un mois sera encore consommable à La Réunion, donc il sera encore consommable chez nous.
D'accord. Ça c'est bon à savoir.
C'est pour les yaourts.
Est-ce que c'est pour les
steaks hachés, hein.
Alors ça ne vaut que pour les yaourts. Alors après tout ce qui est produits carnés, la viande et le poisson, une fois que c'est dépassé, on n'a pas les mêmes risques sanitaires.
Oui, mais pour tous les produits laitiers ou pour les yaourts uniquement? Une crème fraîche, concrètement.
Pareil.
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 Donc en fait, d'accord, c'est tous les produits laitiers.
Tous les produits laitiers qui, en fait, on a des ferments lactiques à l'intérieur. Et dans la mesure où il n'y a pas une rupture de la chaîne du froid, que votre yaourt, vous l'avez acheté et vous l'avez mis directement avec une glacière dans votre frigidaire, qu'il n'y a pas une rupture de la chaîne du froid, il n'y a pas une baisse, une montée de température du produit, il va rester consommable sans problème. Okay. Alors bon, ce message-là, je le passe principalement pour les adultes. Vous avez un bébé de 3 mois, n'allez pas tenter le diable. Ouais.
Voilà. Mais c'est pour augmenter ses défenses immunitaires.
Tu es les Réunionnais, d'accord, mais là, pas vos gamins quand même.
Voilà. Et après, on a un truc qui est encore mieux que ça, c'est sur les produits secs. Vous allez avoir sur un paquet de pâtes des dates, mais qui sont très très lointaines. Donc par exemple, on va acheter des pâtes
jusqu'à
aujourd'hui.
Jusqu'à un an, je crois.
On va acheter des pâtes aujourd'hui, elles sont bonnes jusqu'en 2020. Mais qu'est-ce qui se passe en 2021? On est sur un produit sec, les pâtes sont toujours pâtes. Donc ça ne sert à rien de jeter des pâtes qui sont dépassées de date. Vous les remettez à cuire, un coup de crème fraîche, du gruyère, et elles seront aussi bonnes.
On a des conseils cuisine en plus.
Voilà.
Ce matin.
En fait, on va voir conseils cuisine, c'est que finalement...
Pour étudiants.
Mais pour tout le monde. Éviter le gaspillage alimentaire, c'est déjà premièrement connaître ça. La deuxième façon, c'est quand on va faire les courses... On va faire les courses de manière raisonnée. Je ne vais pas faire les courses sans une liste. Parce que de quoi j'ai besoin? Ouais. Avant de partir, je vais faire un tour dans le frigidaire, dans le placard. Qu'est-ce qui me manque ? Je note. Et puis, je vais acheter ce qui me manque. Alors après, on peut se faire plaisir. Parce que les magasins fourmillent de mise en scène qui nous donnent envie d'acheter. Donc, on peut se faire plaisir. Mais on se fait plaisir en restant sur sa liste. Et puis après, quand on range les courses à la maison, eh ben, on les range avec un peu de méthode. Et la méthode, elle s'appelle FIFO, qui veut dire un acronyme First In, First Out. Wow. C'est-à-dire que les produits que j'ai achetés, qui ont la date de péremption la plus longue, je les range derrière. Et les produits qui étaient dans le frigidaire, qui, eux, arrivaient à échéance, je les mets devant. Comme ça, quand j'ouvre la porte du frigo, je vais prendre les produits qui sont devant moi, qui ont la date de péremption la plus courte. Et ça aidant, ça limite le gaspillage. Et après, troisième façon...
Mais c'est chiant, du coup. Parce que ça veut dire que... Non, mais là, c'est pour taquiner. Hein. Oui. Mais du coup, là, j'imagine mon placard, j'ouvre, je suis obligé de tout ressortir, vu que ce seront les premiers à être consommés.
Tout à fait,
De tout mettre à l'intérieur de ce que je viens d'acheter et ensuite de remettre les autres.
Alors, quand on fait les courses...
Les journées sont courtes.
Hein. Quand on fait les courses, c'est une grosse galère. La première, c'est qu'on arrive, il faut prendre le caddie, il faut mettre les aliments dans le caddie, il faut les ressortir pour les mettre sur le tapis de la caisse. Après, il faut les ranger dans le caddie et après, il faut les mettre dans la voiture.
On va au drive, nous.
Bah d'accord, bon, moi je suis de la vieille école.
On n'a pas le temps, nous, on travaille 30
ans. Moi, c'est Deliveroo, tu vois.
L'exploitation, tout ça.
Bon, alors je suis en train de vous parler d'une période qui était passée. Il n'y avait pas tous ces gens.
Un caddie, c'est quoi ça. Un caddie moi, mes enfants me demanderont, c'est quoi un caddie, papa bon, je ne sais pas, je crois qu'on y mettait des trucs à l'époque
en
où
fait,
on faisait ses courses.
Voilà, c'est la... moi, je suis de la vieille école et j'aime bien la relation humaine. Donc, ça veut dire que... voilà. J'aime bien voir les caissières et puis discuter avec elles et puis, ou les caissiers. Donc, des livres où il n'y a plus de caissiers.
Les emplois superflus, quoi. Non, vraiment. C'est de l'humour, mais
d'accord.
Toujours. Hein, je le dis parce que pour les auditeurs.
Il a toujours du monde.
Je prends jamais de l'humour noir et fais une blague sur ma couleur de peau. J'aime pas ça. Mais en revanche, vraiment, c'est
vrai que c'est assez ironique.
C'est,
hein.
Ouais, c'est que de l'humour. C'est que de l'humour. Je taquine un peu, mais c'est vrai en fait. À la fois, pendant que là je reprends un peu mon sérieux, je suis en train de dire que aussi les grands commerces en fait évoluent sur la capacité en fait d'apporter le produit aux personnes. C'est-à-dire
oui.
Que pour les personnes aussi âgées, par exemple, qui sont pas en mesure de se déplacer, énormément sollicitent en fait directement le service. On va pas dire les marques ici, mais pour que directement leurs courses en fait arrivent chez elles, dans leur maison, dans leur appartement, et nous-mêmes actifs, jeunes actifs, eh bien parfois on utilise parce qu'on n'a pas forcément le temps d'aller faire des grosses courses de 200 €, eh bien parce que ça prend quand même une heure, deux heures, eh bien on peut utiliser aussi le drive. C'est juste des nouveaux moyens et je pense qu'ils vont progressivement en fait. Je suis totalement d'accord avec toi sur les caissières, mais tu vois bien que même quand on arrive dans des magasins, on a déjà la solution qui est proposée de pour les petites courses, eh bien d'utiliser directement les machines et de ne plus passer par les caisses comme on pouvait faire à l'époque.
Nous devenons des robots.
C'est ça. Cette notion de développement durable, elle est. Il y a aussi le côté social. Donc c'est vrai que est-ce qu'on a vraiment besoin ? Est-ce que donc là on est les jeunes actifs, ils ont besoin de temps, ils n'ont pas de temps pour faire les courses, mais le temps leur sert à quoi ? À quoi sert le temps ? On va reparler du gaspillage alimentaire. Il faut un peu de temps pour en éviter. Le gaspillage alimentaire, c'est dire voilà, j'ai dans le frigidaire des anciens produits. Est-ce que je les jette ou est-ce que je les revisite ? Et revisiter un produit qui est dans le frigidaire, j'ai mangé des pâtes il y a deux jours. Comment je fais pour que ces pâtes qui ont deux jours, elles finissent pas à la poubelle ? Ben pour qu'elles finissent pas à la poubelle, c'est les reprendre en tant que pâtes et avec reprendre d'autres produits et refaire une recette basée sur les pâtes, mais qui ne sont pas les pâtes qu'on avait mangées à l'origine.
Ouais, j'entends. Là, tu disais, c'est pas perdre. Bah, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on a ? Mais après, c'est un grand débat sur la question des salariés. Est-ce que les machines sont censées à un moment donné remplacer et puis créer une société du loisir sans travail, sans emploi, etc. Mais c'est effectivement un grand débat. Mais pour l'instant, effectivement, tant qu'on annexe le droit à la vie, à la consommation, etc., au salaire, eh bien, effectivement, on pourrait se dire, bah tiens, on va créer quand même du salariat, on va montrer qu'on a besoin de ces forces humaines-là pour pouvoir et créer du contact social, on dit bonjour, on parle, etc. Et puis voilà. Mais ou alors, effectivement, là, on peut se dire qu'on assassine de l'emploi, si on va dans ta perspective à toi, on assassine de l'emploi et on diminue du lien social en utilisant directement les machines ou les moyens de service qui sont les moins humains possibles, entre guillemets.
Alors, en parlant d'humains et en revenant un petit peu sur nos déchets, sachez que nos déchets sont triés par des gens. Donc, quand on met dans un sac jaune des déchets et qu'on demande à ce que la collectivité les valorise, il faut que ce soit valorisable. Donc, il faut faire attention à ce qu'on y met parce que le sac jaune ou le bac jaune va être ouvert de manière manuelle et des gens vont trier et vont chercher dans ce que vous avez mis les matières qui sont recyclables. Donc, il est important de faire attention à ce qu'on y met, même si on se dit, bon, les gens sont payés pour ça. Des fois, on voit des déchets qui sont dans le sac jaune qui n'ont vraiment rien à y faire.
Donc, et dans le sac noir ?
Dans le sac noir, je crois que c'est pire.
Non, mais oui, parce qu'on avait vu des émissions. Tu vas nous dire, toi, si à l'échelle de la communauté de communes, c'est vrai ou non. Bah, en tout cas, si tu le vois, on voyait dans ces émissions-là, en fait, des déchets. Mais j'ose même pas parler de déchets parce qu'on parle d'êtres vivants. D'animaux en fait qui sont morts sur les routes, qu'on a renversés, qu'on a mis dans le coffre et ensuite qu'on a mis dans une poubelle ne sachant pas où le déposer. On voyait des chats, des chiens, etc. qui rentraient dans les grands sacs noirs. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de voir des choses totalement hallucinantes de ce type-là ?
Alors, par chance, je ne rentre pas dans les sacs noirs. Les sacs noirs, ce sont les déchets ultimes, donc on ne sait pas ce qu'il y a.
D'accord.
Donc, mes collègues qui collectent accrochent le bac à l'arrière de leur benne,
oui.
Et après la benne va charger le bac, et après ce qu'il y a à l'intérieur, on ne regarde pas du tout.
D'accord.
Parce qu'on est vraiment sur un problème d'hygiène, on ne peut pas le faire. Autant on va trier le sac jaune, parce que le sac jaune est censé contenir des emballages, donc on n'a pas de déchets dangereux, autant les déchets ultimes sont tout le reste. Donc on demande aux gens de mettre tout le reste. Donc tout le reste peut être, comme tu dis, des animaux morts, des couches pleines de...
Oui.
Personne irait fouiller pour voir si à l'intérieur. Là, des fois, les gens me posent la question. Ben voilà, j'ai par mégarde, j'ai perdu mon portefeuille et je pense l'avoir jeté dans le bac noir. Oui, bah écoutez, même s'il y a un billet de 500 euros à l'intérieur, tant pis. Si c'est dans le sac jaune, comme on est censé trouver des déchets propres, il va être trié. On a une chance de le retrouver, mais...
Sans le billet.
Non,
je plaisante.
Il faut bien avoir des pourboires quand on... Enfin bon, il faut être assez maladroit quand même pour...
Ça arrive qu'on soit maladroit. Hein. Alors, donc le gaspillage alimentaire, c'était donc ces deux, trois petits trucs qui permettaient de le réduire. Et puis après, il y a autre chose qui permet de le réduire, c'est consommer local, c'est bien. En tout cas, saisonnier, c'est encore mieux. Là, j'ai sous les yeux une feuille qui me donne les produits de janvier. Donc en janvier, je vois qu'il n'y a pas de fraises. Donc si j'ai besoin de fraises ou si j'ai envie de fraises en janvier, elles ne poussent pas parce que ce n'est pas la saison. Donc il va falloir l'importer. Et comme la fraise est un fruit charnu fragile, même si elle vient d'Espagne, elle va faire entre 1000 km dans un camion frigorifique et le transport va fragiliser la fraise. Donc si il part 1000 tonnes de fraises dès l'Espagne, avec ce transport, eh ben, une grande partie va être perdue. Et cette partie qui est perdue, elle est gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que le gaspillage alimentaire commence quand on a demandé à la planète Terre de produire une denrée alimentaire. Mmh. Et finalement, cette denrée alimentaire, sa finalité, ce n'est pas de nous nourrir. Si elle termine ailleurs que dans notre ventre, c'est gaspillage alimentaire. Si j'ai un chat ou un chien et à qui je donne un morceau de viande parce que je n'ai pas fini, c'est gaspillage alimentaire. Parce que finalement, la terre ne produit pas des denrées alimentaires pour qu'on nourrisse les animaux. Les animaux sont nourris avec une autre filière, avec d'autres conditions, d'autres impératifs et règlements sanitaires. Donc ça veut dire que c'est autre chose. Donc dès qu'on produit, si on jette un aliment, on est gaspillage alimentaire.
On va faire une dernière petite pause musicale sur ton choix musical, comme je le disais tout à l'heure. Tu peux nous le dire ?
Alors, c'était les Rolling Stones. C'est un vieux morceau, très vieux morceau. Miss You.
À tout de suite.
C'est bon.
Vous êtes toujours sur la rage 99.1 FM ou directement sur le site www.la-rage.fr. Nous sommes toujours avec Philippe et nous allons arriver effectivement vers la conclusion car il nous reste que quelques minutes en sa compagnie. On va essayer d'en profiter. Ton dernier vrai message, Philippe.
Donc le dernier message, c'est-à-dire que on a déroulé un peu ce matin tous les outils qui vont permettre à chacun de gérer ses déchets. Et chacun va pouvoir mettre le niveau là où il le veut, là où il le peut. Donc le premier niveau, niveau basique, niveau essentiel, pas basique, c'est le tri avec la différenciation des déchets. Après, en fonction de l'investissement qu'on peut y mettre chez soi, est-ce qu'on va pouvoir être capable de composter les biodéchets ? Est-ce qu'on va être capable aussi de réduire le gaspillage alimentaire ? Et tout ça va nous amener au niveau de la consommation, à des actes plutôt responsables, raisonnables. On regarde l'impact qu'on a sur la planète. Et puis, il y a certains qui sont allés encore beaucoup, beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, il y a un mouvement qui en vogue, qui est le zéro déchet, avec Bea Johnson, qui est la papesse du zéro déchet. Je ne vais pas demander aux habitants de le faire. Chacun va mettre son seuil où il veut. Et s'il y en a qui arrivent au zéro déchet, c'est bien. C'est bien, mais ce n'est pas la politique portée par la collectivité. La collectivité, elle est chacun... définit le seuil là où il l'entend.
Merci beaucoup. Je voulais te demander en termes de salariés, en termes de formation, tous tes collègues, là, tes collaborateurs, je voulais savoir, tous ceux qui souhaitent travailler dans ce secteur-là, est-ce que vous avez des formations spécifiques, je veux dire, dans le milieu scolaire, hein. C'est-à-dire que moi, je suis en seconde ou alors en troisième. On va dire en troisième parce que tous les choix sont ouverts. Si je suis en troisième, je souhaite être l'un de tes collègues dans 5-6 ans. Comment je m'y prends ?
Alors, pour être... alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'étais fan de nature. Hein, et
d'accord.
Puis, moi, j'aurais voulu travailler à l'ONF ou dans les parcs nationaux parce que j'avais une haute idée de la nature. Et puis, je voulais, comme tout le monde, sauver le monde.
D'accord.
Et puis, il n'y a pas beaucoup de place. Parcours aidant... j'ai fait une formation en environnement. J'ai fait une licence pro gestion des déchets. Et finalement, je ne sauve pas la planète. Je ne sauve pas les petits oiseaux. Je ne sauve pas les marmottes. Mais j'ai un travail aussi important et aussi valorisant. Parce que échanger, parce que porter des messages, parce que des fois aussi devoir argumenter quand les gens n'ont pas compris ou veulent pas comprendre le message, c'est aussi valorisant. Je parle aussi de poissons, je parle aussi des phoques et puis du plastique. Et puis le septième continent et puis les gyres, c'est aussi une forme d'environnement. Mais pratique et la différence c'est que je passe un message et les gens sont acteurs sauf que sauver les marmottes on est très très loin et c'est très plus compliqué donc au quotidien je suis je préserve l'environnement.
D'accord, là tu as parlé d'une licence qui existe du coup.
Oui.
Je suis en troisième, je peux passer n'importe quel baccalauréat.
Alors, moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce que la licence je l'ai fait en tant qu'adulte, mais j'avais avec moi des collègues qui avaient fait plutôt un bac scientifique.
D'accord.
Et après ils avaient fait un DUT génie de l'environnement.
D'accord.
Donc on est sur des cursus plutôt scientifiques. Il y a des métiers un petit peu transverses qui sont les médiateurs de l'environnement où on est un peu comme je le suis. On est plutôt sur parler, expliquer. Donc il faut avoir un peu de curiosité, un peu de connaissance et savoir, comme on disait avec Aurélie, un peu de stratégie. Ce n'était pas manipuler les gens, mais c'était la stratégie et surtout être à l'écoute. Donc avant tout, pour ce métier, il ne faut pas foncer dedans. Il faut juste expliquer les choses pour pouvoir avoir un message qui porte.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je vois qu'il est 7h57. Il va falloir laisser l'antenne pour d'autres émissions. En l'occurrence, c'est Xavier qui prendra la place au micro et qui interviewera Fabrice Passe. Donc, quelques pauses musicales. On va démarrer avec Phoenix, 1901. Et puis ensuite, je pense qu'il y aura peut-être une autre chanson, un troisième titre. Et puis après, là, vraiment, ils vont prendre l'antenne. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir répondu à nos questions.
Merci d'avoir accueilli.
D'avoir
un plaisir.
Éduqué à l'environnement. Où, voilà.
Sensibilisé. Informé.
D'autres mots ou pas?
Conseiller.
En fait.
Culpabilisé.
Non.
Incriminé. Non, je plaisante. Mais encore une fois, ça a été parfait.
Je suis passeur de messages.
Ça, c'est beau. C'est beau.
Bonne journée à toi et puis merci d'avoir été au micro parce que dès 7h, il n'y avait pas beaucoup de volontaires, hein, donc oui, t'as été génial.
C'est vraiment courageux.
Bon,
à bientôt.
Ça a été un plaisir. À bientôt, au revoir.
Phoenix 1901. Ouais.